Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, peut-être en Inde, vivait un vieil homme dont on disait qu'il était un sage. Même on disait que c'était un saint homme. Et c'est vrai qu'il avait l'air de ça. Il était habillé avec de longs habits, il portait une longue barbe et de longs cheveux, il avait un visage tout ridé et puis des yeux magnifiques, très beaux et très bons. On avait envie de rester près de lui, tellement il respirait le calme et la sérénité. Il était connu très très loin, on parlait de lui dans les villages les plus reculés. Il vivait là, dans la forêt. Il s'était construit une petite hutte sous l'arbre le plus beau de la forêt. Et il passait là son temps. Il y avait de temps en temps des disciples qui venaient l'entourer pour apprendre sa sagesse. Et la vie s'écoulait doucement. Un jour, dans un des petits villages, assez loin de là, des parents appelèrent leur petit garçon. Ils lui dirent « Kunda, si en faisant des bêtises et en jouant les farces à tout le monde, on devenait un homme respectueux, tu serais certainement l'homme le plus respectueux de la région. Mais ça ne marche pas comme ça. Un bagarreur et un chapardeur comme toi ne peut pas devenir un homme respectable. C'est pourquoi on a décidé de t'envoyer chez le sage dans la forêt. Tu deviendras son disciple, tu deviendras son serviteur, et avec lui, nous espérons que tu apprendras autre chose que de simplement avoir toujours envie de remplir ton ventre. » Kunda n'était pas très content. Ça ne lui plaisait pas trop. « Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut bien obéir à ses parents. » Et il partit après avoir mangé un repas bien plantureux parce qu'il se disait « Mieux vaut prévenir. » Il est allé retrouver le sage de la forêt. Il lui a expliqué ce que ses parents lui avaient dit et le sage l'a accepté comme disciple. Le vieil homme vivait de façon très frugale. Il mangeait les baies de la forêt, il mangeait des noisettes, il mangeait des fruits, il buvait de l'eau de la source. Ça lui suffisait. Mais Kunda, lui, ah non, il avait bien plus faim que ça. Il se rappelait des plats que cuisait sa mère et son ventre criait famine. Famine tout le long de la journée. Il n'avait que ça en tête. Un jour, le vieil homme l'a appelé et lui a dit « Kunda, je suis désespéré. Tu es tellement désobéissant, j'ai l'impression que jamais tu n'apprendras rien du tout. Je vois que tes yeux ne font que de regarder autour de toi et puis de chercher quelque chose que tu pourrais t'ingurgiter. Je n'ai jamais vu un ventre aussi avide. Regarde, prends ce panier et va au village. » Tu y feras l'aumône, non, tu demanderas l'aumône. Les gens du village ont toujours été très généreux avec mes disciples. Ah, Kunda, là, il était content. Il est parti en sautillant sur le chemin du village avec son panier au bout du bras. Effectivement, les gens l'ont bien accueilli. Il y en a qui lui donnaient un petit gâteau, il y en a qui lui ont donné un plus gros. Il y a même des gens très généreux qui lui en ont donné 4. Assez rapidement, son panier était rempli. Jusqu'au bord. Et il s'est mis sur le chemin du retour. C'était lourd ce panier, mais surtout ça sentait bon. Ça fait si longtemps qu'il n'avait pas senti l'odeur d'une si bonne nourriture. Il y avait du sucre, ça avait l'air croustillant et cuit à souhait. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, il s'est assis au bord de la route, puis il a regardé ses gâteaux, il les a reniflés. Puis il s'est dit, mon maître est un homme tellement sage, tellement bon. Quand il me verra arriver avec mon panier plein de gâteaux, il me dira « Prends la moitié, ce n'est que justice. Pourquoi est-ce que j'attends jusqu'à ce que je sois là-bas? Je vais les manger maintenant. » Et Kunda qui mange la moitié de tous les gâteaux qui sont dans son panier. Là-dessus, il se remet en route. Tout en marchant, il réfléchit. Il dit « Voilà, maintenant il me reste la moitié. Mais j'arrive avec cette moitié auprès de mon maître. C'est un homme tellement juste et tellement bon. Jamais il ne mangera tout ça tout seul. Il va me dire, Kunda, prends la moitié. Alors pourquoi est-ce que j'attends? Je vais les manger maintenant. La moitié. De la moitié. » Et il s'assied au bord de la route et il mange la moitié de la moitié. Il repart. Continue son chemin. Puis au bout d'un moment, il recommence le même raisonnement. Il se dit, maintenant il me reste la moitié de la moitié. Mais le maître, quand il verra ça, il ne voudra jamais manger ça tout seul. Il est trop bon, il est trop juste. Il m'en laissera la moitié. Autant le manger maintenant. Et le voilà qui mange encore. Il avait vraiment un appétit sans fin. Et ça a continué comme ça tout le long du chemin. Finalement, il ne restait plus qu'un gâteau. Il était une taille assez appréciable et il avait l'air très bon. Kunda le regarde et puis se dit « Je vais amener un gâteau à mon maître. Mon maître est tellement simple, il est tellement bon, il est tellement juste. Il ne va pas le manger, il ne va pas manger ce gâteau tout seul qui reste là. Et puis moi, je le regarderai. Il va m'en donner la moitié. Eh bien, je vais en manger la moitié tout de suite maintenant. » Et il mange la moitié du dernier gâteau. Mais finalement, il arrive quand même devant son maître. Il pose le panier où il reste un demi-gâteau. Le maître regarde dans le fond du panier et lui dit « Kunda, explique-moi, les villageois ne t'ont donné qu'un demi-gâteau ?»« Ah non, non, dit Kunda, mon panier était rempli. » Et il lui explique toute l'histoire, du début à la fin, honnêtement. Alors le maître le regarde, le vieux sage le regarde, puis lui dit « Kunda, ce panier était rempli de gâteaux. Tu les as tous mangés, sauf cette moitié. Mais comment tu as fait ?» Alors Kunda la garde avec des grands yeux énormes et lui dit « Mais comme ça, maître ?» Et il prend la dernière moitié et il la mange. À cette fois, le maître reste silencieux un très long moment. Et puis, après, il dit « Kunda, rentre chez toi dans ton village. Tu diras à tes parents que ce n'est pas toi qui avais quelque chose à apprendre, c'est moi qui ai appris une très grande vérité avec toi. Un ventre qui crie famine a beaucoup plus d'intelligence qu'une tête trop pleine. »
Il y a très 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 longtemps, quelque part en Lituanie, un jeune bûcheron était en train de travailler au bord de la forêt. Tout d'un coup, il voit passer une martre. « Ah !» se dit-il, « je vais l'attraper. » Il prend sa hache et il se met à lui courir après. Mais la martre court beaucoup plus vite que lui et l'entraîne dans la forêt. Elle l'entraîne très très loin et de plus en plus loin. Et finalement, quand elle disparaît, le bûcheron a complètement perdu son chemin. Il ne sait plus du tout s'orienter. Il cherche à gauche, il cherche à droite, il est complètement perdu. Et entre-temps, il commence à faire nuit. Alors, il ne se sent pas très rassuré et il décide de monter sur l'arbre le plus haut et le plus touffu qu'il trouve autour de lui pour attendre le matin, en espérant que le matin, avec la lumière du jour, il réussira à retrouver son chemin. Il s'installe tant bien que mal et il s'endort. Le lendemain matin, un vacarme épouvantable le réveille. Il entend plusieurs voix qui crient et qui se disputent. Il essaie de voir ce qui se passe. Il se penche là, de son arbre, et il regarde. Et il voit toute une troupe d'animaux. Il y a un lion, il y a un lévrier, il y a un chat, il y a un aigle, il y a une fourmi, un coq, un moineau et une mouche. Et tout ce beau monde est en train de se disputer à qui mieux, parce que, d'après ce qu'il comprend, la nuit précédente, un élan est mort, et il faut lui chanter son chant de mort. Et ils veulent tous avoir cette prérogative. Ah, ils ont de très bonnes raisons. Le lion, il dit qu'il était son meilleur ami. Le lévrier dit qu'il a fait des courses splendides avec lui. Le chat dit qu'il était le meilleur ami de sa femme. L'aigle et la fourmi disent qu'il habitait à côté de chez lui. Le moineau, il dit qu'il se posait tout le temps sur son dos. La fourmi dit qu'elle habite à côté de chez lui, je crois qu'on l'a déjà dit. Et puis, la mouche dit qu'elle était toujours logée derrière son oreille. Et puis, le coq, lui, il dit « Parenté par-ci, amitié par-là, tout ça ne compte pas. C'est moi qui dois faire le chant parce que j'ai la plus belle voix. » Et ils recommencent tous à donner leur raison. Ça dure un bon moment, mais il y en a quand même un qui, au bout d'un moment, lève le nez puis voit tout là en haut, dans l'arbre, le bûcheron qui les regarde. Ils lui disent « Hé, toi là-en haut, descends voir un petit peu. Tu pourras peut-être nous aider parce que nous, on s'en sortira jamais. » « D'accord, » dit le bûcheron. Et il descend tout doucement pour se donner le temps d'avoir une bonne idée. Quand il arrive tout en bas, il se plante au milieu d'eux. Et il leur dit « Voilà ce que nous allons faire. C'est moi qui vais chanter le chant. C'est la meilleure solution. » Excellente idée, disent tous les animaux à la fois. C'est une si bonne idée que nous allons te récompenser. Chacun de nous va te donner un petit bout de son pouvoir. Il suffira que tu penses très très fort à l'un d'entre nous pour devenir comme lui. Tu deviendras un lion si tu le veux, une mousse si tu le veux. Parfait, dit le bûcheron. Mais maintenant, il faut qu'on enterre l'élan. C'est bien le moment maintenant. Et il entonne le chant de mort. Il entonne un chant de mort magnifique. La forêt en résonne. C'est vraiment un chant de mort comme il faut. Et quand il a fini, il se change en lion et en quelques bonds, il disparaît. Il retrouve effectivement son chemin. Et quand il arrive au bord de la forêt, il rencontre un gardien de cochon. Le gardien de cochon est en train de sangloter. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, gardien de cochon? Pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, c'est affreux. Je vais perdre tous mes cochons, les uns après les autres. Mais comment ça se fait? Lui demande le bûcheron. Mais il y a le diable qui vient m'en chercher un tous les jours. Et quand il aura pris tous mes cochons, il ira prendre la fille du roi. Puis le bûcheron lui dit, mais comment est-ce que c'est possible que toi, tu te sois mis en son pouvoir de cette manière? Oh, c'est pas moi, c'est le roi. L'autre jour, il s'est promené dans la forêt, il est allé trop loin, il s'est perdu. Il s'est perdu complètement, il était complètement désespéré. Il a rencontré un monsieur très distingué qui lui a dit qu'il lui montrerait le chemin à condition qu'il lui donne tous les jours un cochon et, quand il n'en aurait plus, sa fille. Et c'est seulement après que le roi a compris, quand il était de retour au palais, qu'il s'agissait du diable et maintenant nous sommes perdus. La fille du roi va être donnée au diable et avant tout, mais le cochon aussi. Le roi est tellement désespéré qu'il a dit qu'il donnerait sa fille au premier venu pourvu qu'il le débarrasse du diable. Ah, dit le bûcheron, je me sens une vocation de fils de roi. Je vais aller parler au roi. Et c'est ce qu'il fait. Il demande audience. Il s'incline très bas devant lui. Il dit, petit père, je veux bien aller délivrer votre fille. Je veux bien m'occuper de ses cochons. Mais il faut que vous me donniez la permission de devenir moi gardien de cochons. Je suis tellement désespéré, dit le roi, que je dirai oui à tout et n'importe quoi. Fais comme bon te semblera. Simplement, j'espère que tu auras un bon résultat. Et voilà le bûcheron qui fait le gardien de cochon. Le premier jour se passe tranquillement. Le soir venu, au crépuscule, tout d'un coup, on entend un pas précipité. Le diable arrive. On a juste le temps de voir sa queue qui tournoie en l'air et le voilà reparti avec un cochon le plus gros sous le bras. Alors, le bûcheron très vite rassemble tous ses cochons, les met dans son enclos, se transforme en lévrier et part, comme le vent, et fait un grand détour pour se retrouver tout d'un coup nez à nez avec le diable. Ah, dit le diable, c'est l'ours que je dois traîner là. Le lévrier lui dit, mais messire diable, vraiment je ne vous comprends pas. Un peu plus loin d'ici, 7 montagnes plus loin, sur la 8e, il y a un bailli qui est en train de se demander s'il veut se suicider. Il suffirait que tu lui donnes 2-3 petits conseils. Si tu n'y vas pas, je ne crois pas qu'il le fera. Il est très trouillard. Moi, je me demande ce que tu fais ici. C'est vrai, dit le diable. Oh, écoute, garde-moi mon cochon, faut que j'aille voir ça. Si tu me gardes bien mon cochon, à mon retour, je t'en donnerai la moitié. Marché conclu, dit le lévrier. Et à peine le diable a-t-il disparu, qu'il redevient bûcheron. Prend le cochon et le ramène avec les autres. Le 2e jour se passe. Et le soir, au crépuscule, la même scène exactement se reproduit. Et de nouveau, le bûcheron rassemble ses cochons, les met dans l'enclos, et cette fois-ci, se transforme en aigle, d'un coup d'aile vigoureux, traverse le ciel, fait un immense tour et pique tout droit sur le diable. Il le regarde d'un air méprisant, du haut de ses yeux d'aigle, et lui dit, « Messire diable, vous mangez du cochon aujourd'hui ?»« Oh ! Petit père aigle, ne m'en parlez pas. Vous savez, quand on a faim, on est d'accord de faire à peu près n'importe quoi. Il m'est même arrivé de manger des cailloux. Vraiment, messire diable, je ne vous comprends pas. Dans l'autre monde, il y a une affreuse mauvaise mère qui vient de noyer son enfant. Il serait bien plus tendre à croquer que votre cochon. Est-ce que tu dis vrai ? Dit le diable. Ah, je vais vite aller voir ça. Mais cette fois, il prend un tronc d'arbre, un chêne, il l'écarte et il coince le cochon à l'intérieur. Pas qu'il s'en aille. Mais le voilà, qui lui s'en va aussi vite qu'il peut. L'aigle redevient bûcheron, délivre le cochon, et l'emmène avec les autres. Le troisième jour, il ne se passe rien. Le soir tombe, le bûcheron rassemble les cochons, les met dans l'enclos et se dit « J'ai bien peur que cette fois-ci le diable veuille profiter de la nuit pour venir me voler mon cochon. Je crois qu'il faut que je me transforme en coq. » Il se transforme en coq et se plante sur la porte de l'enclos. Il avait raison, il l'avait bien deviné. Dans le noir de la nuit qui était en plus sans lune, voilà le diable qui arrive en essayant de ne pas faire claquer ses sabots. Mais le coq l'a vu et il se met à chanter à plein gosier. Ah, le coq, il n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Et il est parti aussi vite et bien plus qu'il n'était arrivé. Mais un diable, ça ne perd pas si vite la tête quand même. Ça a des idées fixes. Et en passant près du palais du roi, toujours en courant, il entre, prend la princesse sous son bras et l'emmène au plus profond de la montagne, dans une montagne où vraiment il n'y a aucun accès. Le lendemain, quand le roi rencontre le bûcheron, il dit « Que tu sois pendu, toi, avec tes idées géniales !»« Ah, petit père, ne vous en faites pas, je ne suis qu'à la première manche, donnez-moi encore quelques jours. » « Il me faut bien, » dit le roi. Et voilà le bûcheron qui va se promener sur la montagne. Il monte, il descend, il regarde sous tous les rochers. Finalement, au bout de nombreuses heures de patience, il trouve un trou minuscule, minuscule. Il se transforme en fourmi, se met à reculons sur un petit grain de sable et se laisse tomber par le trou. Et il tombe, et il tombe, et il tombe, et juste avant de frapper par terre, il se transforme en mouche. Et alors il va à gauche, il va à droite, et il finit par trouver, très loin dans la montagne, un magnifique château de cristal étincelant. Et à la fenêtre, la princesse. Vite, il se retransforme en bûcheron, se fait reconnaître. La princesse lui tombe dans les bras et lui dit « Ah, quelqu'un est venu me sauver !» Mais son bonheur ne dure pas longtemps. Tout d'un coup, elle se met à pleurer, elle dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, mon maître va venir !» Il va vous mettre en morceaux. C'est ce qu'on verra, dit le bûcheron. Et comme on entend les pas caractéristiques du diable, vite il se transforme en lion. Et alors s'engage entre le lion et le diable la bataille la plus épouvantable que vous puissiez imaginer. Tout vole dans tous les sens, on entend des mugissements et des hurlements, mais le lion finit par avoir le dessus. Et il mange le diable, il mange ses cornes, il mange sa queue, il mange ses sabots, tout, y compris ses bottes. Vite, il se retransforme en bûcheron. Cette fois-ci, il est très content de lui. Mais la princesse le regarde et lui dit « Vous n'avez rien compris, mon cher. Nous sommes enfermés dans cette montagne, il n'y a aucune issue. Il y a des gardiens partout et ils sont fidèles au diable. Comment allons-nous faire ?» Et elle se remet à pleurer. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Puis il dit « Ah, mais je me rappelle, quand il n'était pas là, j'allais fouiller dans ses livres. Moi, j'aime beaucoup lire, c'est très intéressant les livres. J'ai vu dans son livre que quelque part ici, et c'était même décrit exactement où, dans un arbre, se trouve un œuf de cristal, un magnifique œuf de cristal. Si on le trouve et qu'on arrive à le faire sortir de cette montagne, le poser par terre sur la montagne, il y a tout le château de cristal avec tout son contenu qui sort de terre. Ah, dit le bûcheron, eh bien, je vais aller le chercher. Expliquez-moi où il est. Elle lui explique. Il se transforme en petit moineau, va chercher l'œuf sur l'arbre et le ramène. La princesse prend l'œuf dans sa main et lui dit, voilà, nous avons l'œuf, mais il nous sert à quoi maintenant? Il nous sert à quoi? Puisque pour le sortir, il faut qu'un nous sorte. Et elle se met à réfléchir. Tout d'un coup, elle a vraiment de bonnes idées. Elle se rappelle qu'un des portiers déteste les chats. « Est-ce que vous savez vous transformer en chat ?» demande-t-elle au bûcheron. « Eh, mais bien sûr, » dit le bûcheron. Et elle lui explique qu'il y a ce portier qui ne peut pas supporter les chats. Alors, il prend l'œuf de cristal dans sa bouche, se transforme en chat et se met à fureter partout, en essayant de miauler même qu'il a un œuf dans la bouche. Évidemment, le portier a vite fait de le repérer, parce que vraiment, il n'aime pas les chats. Alors, il l'appelle. Il l'appelle, minou, 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 viens ici, petit, 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 mais viens, 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 plus près. Et il l'attrape par la queue. Et il le monte dans la montagne, il monte 10 marches, et 20 marches, et 100 marches, et 1000 marches tout en haut, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au portail, toujours avec son chat là, tenu par la queue. Mais il a la clé du portail, il l'ouvre et avec un bon coup de pied, il envoie le chat dehors. À peine la porte s'est-elle fermée, que le chat se transforme en bûcheron, et délicatement, il pose l'œuf par terre. Et voilà que le château de cristal sort. Il sort avec la princesse à la fenêtre. Et cette fois-ci, elle est vraiment sauvée. Ça a bien sûr fini par un mariage. Entre un bûcheron qui avait mangé un diable et une princesse qui savait tout ce qu'il y avait dans les livres du diable.